Radio Kecil, Ganteng.
Il est président du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants CNPRI. Le professeur Marc Kakulikaniki est l'invité de Grand Témoin. Nous lui disons merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Au cours de cet entretien, professeur Marc Kakulé, nous allons faire le point de la radioactivité en RDC. En 1987, vous décrochez votre diplôme de licence en sciences, option physique nucléaire, à l'université de Kinshasa. En termes simples, c'est quoi la physique nucléaire, professeur Kakulé?
La physique nucléaire, pour parler tout simplement, c'est la physique qui s'intéresse aux noyaux des atomes.
Tout simplement.
Oui.
Aujourd'hui, dans le monde, le nucléaire est à la une. Mais où en est la RDC du point de vue du nucléaire?
Pour être sincère, nous ne sommes nulle part. Je pourrais dire que la physique nucléaire n'existe presque pas. Nous n'avons qu'un seul centre de recherche où se pratique la physique nucléaire. C'est le Commissariat Général à l'Énergie Atomique, Centre Régional d'Études Nucléaires de Kinshasa, CRENKA, où il dispose des réacteurs de recherche, réacteurs nucléaires de recherche, et d'autres labos où il y a quelques petites recherches en physique nucléaire.
Si je ne me trompe pas, c'est le centre que dirigeait le professeur Malou.
Oui, c'est bien le centre que dirigeait le professeur Malou. Ensuite est venu le professeur Lumu, ensuite le professeur Lubala, et maintenant c'est le professeur Vincent Lukanda Mwamba qui est l'actuel commissaire général à l'énergie atomique.
Quel est le niveau de la recherche ici chez nous?
Pour être franc et sincère avec vous, je pense que, au vu de ce qui se passe sous d'autres cieux, notre niveau de recherche est vraiment au tapis. Je suis un témoin privilégié, je suis à la fac, au département de physique, et je fréquente régulièrement le commissariat général d'énergie atomique. J'ai des amis qui sont à Polytechnique un peu partout. Sincèrement, la recherche dans ce pays se porte très très mal. Et c'est vraiment dommage parce que il n'est pas concevable que le pays puisse évoluer ou bien prétendre à des grands rendez-vous comme la mondialisation, ainsi de suite, sans pouvoir développer la recherche.
Et cela, vous l'attribuez à quoi? À la négligence des autorités, au manque des moyens et à quoi?
Bon, il y a un peu de tout. Hein. Je pense que nos autorités ne s'occupent pratiquement pas de la recherche. Bon, à cela, bien sûr, on lit le manque de moyens, le manque de la bonne volonté. Et aussi, il faut l'avouer, nous avons quelques bons chercheurs qui ont été formés à de grandes universités de par le monde, mais qui, une fois revenus au pays, sont délaissés, abandonnés à eux-mêmes. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans équipement, sans bibliothèque, sans quoi?
En 2005, vous devenez docteur d'État en sciences de l'Université East China Normal University à Shanghai, en République populaire de Chine, département de physique. Nous avons retrouvé un compatriote qui a fait ses études en Chine. Nous allons le laisser se présenter.
Moi, je m'appelle Dudulin Ushundani. Je suis médecin de formation. J'ai terminé en République populaire de Chine en 1983 à l'Université des sciences médicales de Chine à Shenyan, dans le nord, dans la province de Liaoning.
Merci, docteur Dudulin. J'ai vu le professeur Kakulé acquiescer de la tête. Vous connaissez l'université, professeur?
Bien sûr. C'est une grande université de la Chine.
Docteur Dudulin et professeur Marc Kakulé, est-il facile à un étudiant congolais de faire ses études en Chine, docteur Dudulin?
Bon, ce n'est pas si facile parce que le chinois est une langue qui est tout à fait autre que les langues romaines. Et je pense qu'avec un peu de volonté, on peut toujours contourner étudier sans problème. La preuve en est que vous avez un professeur dans votre studio et je suis ici au dehors et on est en train de communiquer.
Mais en dehors des difficultés liées à la langue, professeur Marc Kakulé, quelles sont les autres difficultés auxquelles vous particulièrement vous avez été confronté?
Bon, il y avait le manque de moyens parce que tous les étudiants congolais qui sont à Chine étaient censés avoir une contrepartie du gouvernement congolais comme supplément de bourse. Supplément qui n'arrive malheureusement plus. Et puis, bon, il y a ces changements de milieu. Comme l'a si bien dit le docteur, la langue chinoise, c'est une toute autre langue comparativement aux langues que nous connaissons. Et dès que vous commencez à étudier cette langue, pratiquement, vous partez de zéro. Hein. C'est comme un petit bébé à qui on doit tout apprendre. Et dire que cela prend juste une année pour que les autorités académiques de la Chine estiment que vous maîtrisez déjà la langue et que vous pouvez suivre des cours à la fac. Sincèrement, c'est pas facile, il faut beaucoup de bonne volonté. Mais bon, écoutez, on était parti à Chine pour ça, il fallait essayer de s'en sortir. Et merci, nous nous sommes bien débrouillés.
Docteur Doudouline, la langue chinoise a-t-elle des similitudes avec quelques langues que vous connaissez ici en Afrique?
À mon sens, je crois que quand on parle, les langues asiatiques généralement ressemblent un peu à nos langues ici. Hein. Généralement, quand on parle, ça ressemble un peu au kikétéla, un truc comme ça. Et puis, ça peut aussi ressembler un peu au katanga. Le kinunga, c'est un peu un truc comme ça.
Oui, pour paraphraser le docteur, je peux vous citer un mot qui apparaît et à chinois et à kikongo.
Allez-y.
Quand les chinois disent pangyo, ça veut dire ami.
Ah, Mpangiyo.
Oui.
Mpangi.
Alors, le Mukongo se dit Pangi. C'est la même chose. Hein? Donc, il y a quelques mots par-ci par-là qui se ressemblent. Et ça nous facilite, nous les Africains, de bien maîtriser surtout le parler de la langue chinoise.
Docteur Doudouline, je vais vous demander en direct, pouvez-vous amorcer un petit dialogue avec le professeur en chinois?
Ah, je peux commencer par lui dire Tiens,
je n'ai rien.
Alors,
qu'est-ce que vous vous êtes dit l'un à l'autre là? Professeur, qu'est-ce que vous vous êtes dit?
J'ai dit au docteur que je suis très content de faire sa connaissance et que tout le plaisir est pour moi.
Docteur Doudouline, quel conseil pouvez-vous donner aux étudiants congolais qui souhaiteraient poursuivre des études à l'étranger et particulièrement en Chine?
Pour aller à l'étranger, il faudrait aller avec un esprit bien préparé, c'est-à-dire que vous n'allez pas au paradis. Et la bourse qu'on donne généralement, ça ne suffit pas pour pouvoir subvenir aux besoins des étudiants. Et l'étudiant, il se trouve dans un camp de déplacés en quelque sorte, parce qu'il va quitter sa famille, son milieu, pour aller vivre dans un milieu tout autre, avec une mentalité aussi parfois différente. Alors, il faudrait aller avec un idéal, de revenir ici avec un papier. Dans ce moment-là, on fait œuvre utile.
Professeur Marc Kakoulé, quelque chose à ajouter?
Non, je suis parfaitement d'accord avec Dr. Doudou. Je pense que dès qu'on quitte le pays, il faut avoir un objectif précis et il faut tout mettre en œuvre pour réaliser cet objectif.
Merci beaucoup à vous, Dr. Doudouline et Professeur Marc Kakoulé pour cet entretien. Je sais que les scientifiques, vous aimez beaucoup la musique et je vais vous proposer de clôturer cet entretien avec ce morceau de musique de la Symphonie de Handel. professeur Marc Kakule-Kaniki. C'est depuis 2005 que vous dirigez le CNPRI. Concrètement, quel est le travail de cette cellule?
Le Comité national de protection contre le rayonnement ionisant est une institution nationale qui a pour mission de réglementer l'usage et l'utilisation des rayonnements ionisants et des matériaux radioactifs dans ce pays. Le CNPRI existe légalement depuis 2002 et il y a la loi numéro 017. Par 2002, du 16 octobre 2002, porte à disposition relative à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique des matières et des installations nucléaires, qui institue le CNPRI comme le seul organe habilité à réglementer les rayonnements ionisants et les matériaux radioactifs dans ce pays. Pour ça, ce n'est que la loi. Ensuite, il y a deux textes qui s'en sont suivis, notamment le décret 05/019. Du 29 septembre 2005, portant organisation et fonctionnement du CNPRI, suivi du décret 05/22 du 29 mars 2005, portant réglementation de la protection contre les dangers des rayonnements ionisants. Ce sont les textes légaux qui donnent naissance et régissent le CNPRI. Mais de fait, le CNPRI existe à partir de décembre 2005, par la nomination des animateurs de l'institution.
Donc, vous n'avez pas encore de représentation en province?
Non, pas encore.
C'est quoi le rayonnement ionisant?
En fait, le rayonnement ionisant, c'est ce qu'on appelle, dans le langage courant, des radiations. Nous avons dans la nature des corps chimiques, une parenthèse, notre pays, sur les 104 éléments du tableau périodique, je pense que nous avons tout dans ce pays. Dieu nous a vraiment gâtés. Alors, quand vous prenez le tableau des éléments périodiques, la colonne qu'on appelle des actinides, à partir du 87e élément jusqu'au 104, la plupart de ces éléments sont naturellement émetteurs de rayonnements et de ce fait qu'ils sont radioactifs.
Pouvez-vous nous en citer quelques-uns?
Là-dedans, on trouve le radium, on trouve le polonium, l'uranium, le thorium, l'américium, toute une série d'éléments qui, fort heureusement, tous se retrouvent dans ce pays.
C'est vrai que ces éléments se retrouvent dans ce pays, mais pour la plupart, se retrouvent dans des minerais, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Et il y a des coins du pays où des creuseurs artisanaux continuent à découvrir des minerais qui leur sont inconnus. Que doivent-ils faire dans ce cas?
Il serait souhaitable que ces gens puissent faire expertiser leurs minerais pour connaître d'abord de quoi il s'agit et si ce sont réellement des corps radioactifs, pouvoir les réglementer et leur prodiguer des conseils comment se protéger contre les dangers des rayonnements ionisants.
Comme le CNPRI n'est pas représenté en province, ils doivent envoyer à Kinshasa où il y a des centres d'études, des bureaux d'études, des laboratoires. Où est-ce qu'ils vont faire expertiser ces minerais-là?
Bon, en matière de termes radioactifs, je pense que le seul centre approprié pour le moment, c'est le Commissariat général à l'énergie atomique. C'est la seule institution qui possède des labos capables de nous déterminer les corps radioactifs et ceux qui ne le sont pas. Mais alors, je voulais dire un mot sur justement l'implantation du CNPRI. Nous sommes en attente du budget 2008 et nous espérons qu'avec ce budget, nous allons solidement nous implanter à Kinshasa et dans certaines provinces cibles comme la province du Katanga et la province du Kivu. Là, on découvre facilement des minerais radioactifs.
Au Katanga, le gouvernement provincial a pris, il y a quelques jours, un certain nombre de mesures interdisant l'exploitation et la commercialisation des minerais radioactifs dans la ville de Kolwezi. C'est notamment la fermeture de plusieurs dépôts et des sites des minerais. Le gouvernement entend ainsi protéger la population contre la radioactivité. De leur côté, les médecins affirment que le contact avec les minerais radioactifs a des conséquences néfastes sur la santé humaine. Docteur Christian Kakisingi, chargé de la médecine interne aux cliniques universitaires de Lubumbashi, est au micro de Paulin Munanga.
Les conséquences, il y en a plusieurs. Nous avons des conséquences qui apparaissent dans les jours qui suivent l'irradiation et il y a d'autres conséquences qui apparaissent avec le temps. On peut avoir des problèmes au niveau du système vasculaire. Nous voyons plus la circulation sanguine, on voit aussi le cerveau avec tous ces vaisseaux, tous ces éléments qui nous aident pour le sang. Si vous avez une forte irradiation, le décès peut s'en découler. À part ces effets aigus, il y a toujours des effets différés, c'est-à-dire des effets qui apparaissent plus tard, absolument, chez toute personne, et des effets tout à fait aléatoires. Donc, ils peuvent survenir comme ils ne peuvent pas survenir, ou peuvent survenir dans les générations futures. Si ce sont les tissus sanguins qui sont attaqués, il y a des gens qui vont faire maintenant des anémies facilement, et ils peuvent avoir des troubles de coagulation, c'est-à-dire que quelqu'un qui se met toujours à saigner et tout ça. Et avec ça, c'est pas entraîné maintenant cette apparition des différents cancers.
Professeur Marc Kakoulé, président du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants, je vous ai vu hocher plusieurs fois la tête. Vous avez une réaction?
Non, en fait, ce que dit le docteur est très exact. Et je pense qu'il comprend bien le phénomène. En fait, qu'est-ce qui se passe, quoi? Dès que vous êtes en contact des matériaux radioactifs, vous êtes sous l'effet de bombardement de ces rayonnements-là. Et selon leur énergie et leur nature, ces rayonnements ont un pouvoir de pénétration qui leur permet d'aller même modifier la structure génétique des molécules du corps humain, des cellules du corps humain. Et c'est ce qui fait que le docteur vient de dire à peine que le sang peut avoir des problèmes pour se coaguler, c'est que les rayonnements sont partis démolir ou bien modifier certaines structures dans les cellules qui font que le sang ne puisse pas se coaguler. Et il y a des conséquences à court terme dues au fait de l'intensité de ces radiations et la mort peut s'en suivre directement. Par contre, il y a des conséquences à long terme qui peuvent se faire sentir même sur les générations futures parce qu'il suffit que les cellules germinales, par exemple, soient atteintes pour que ces cellules-là puissent être transmises à la descendance avec toutes les conséquences dues à cette modification de la structure.
C'est ainsi que, par exemple, nous avons suivi dans certains documentaires des enfants mal formés, par exemple dans le site de Tchernobyl, dans l'ex-URSS. Professeur Kakoulé, actuellement, quand on parle du nucléaire, de la radiation, on ne voit que le côté négatif, hein, bombe atomique et consorts. Est-ce que la radioactivité est toujours mauvaise?
Pas tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a que cet aspect-là qui a été présenté au public, parce que les militaires se sont saisis de cet aspect, ils ont développé des armes. Mais à part ça, il y a la radioactivité qui est utilisée à des faits plus humains et même utiles. Et là, je vais vous donner le cas le plus courant, c'est l'utilisation des rayons X. C'est une méthode que vous connaissez qui nous permet de diagnostiquer l'intérieur du corps sans pour autant ouvrir. Et il y a maintenant la radiothérapie qui est en train de se vulgariser pour le traitement des tumeurs cancéreuses et beaucoup d'autres usages médicaux. Et en plus de ça, la radioactivité peut être utilisée dans la prospection de minéraux. Donc pour me résumer, à part les usages militaires de triste mémoire, nous avons des usages médicaux très utiles, des usages industriels très utiles.
Revenons un peu à vous. En juin 2007, vous avez participé à la réunion sur le rapport des incidents survenus sur les réacteurs nucléaires de recherche. C'était à Vienne, en Autriche. Quelles étaient les conclusions de cette réunion?
Bon, en fait, cette réunion technique concernait le rapport. Chaque délégation est venue présenter les incidents qu'ils ont connus avec les réacteurs de recherche. Et après que toutes les délégations aient présenté ces incidents, notre pays a parlé aussi de ces incidents, parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons un réacteur de recherche.
S'il vous plaît, professeur Kakoulé, quels sont les incidents que nous avons connus ici chez nous avec notre réacteur de recherche?
Bon, présentement, vous savez que notre réacteur n'est pas en marche, en état de marche. Il a toute une série de problèmes, notamment dans son système de refroidissement et le système de commande, le tableau de commande et tout un tas d'autres petits problèmes. Mais l'incident qui a été présenté à cette réunion, c'était juste une fuite dans le transfert pneumatique des échantillons. L'expert du CRENCA, M. Compel, avec qui je participais à la réunion, il a présenté le SIDA. En fait, c'est pour notre réacteur, il y a un système pneumatique qui envoyait les échantillons au cœur du réacteur où ils pouvaient être irradiés. Et de là, le même système permettait de retirer les échantillons. Alors avec le temps, on a remarqué que quand on ramenait l'échantillon, le système ramenait aussi de l'eau. Et c'était un SIDA qui a été présenté à Vienne. Et nous avons profité des conseils et de l'expérience des autres pays pour essayer de trouver des solutions à cet incident.
Et quelles conséquences ça pouvait avoir sur l'environnement?
Le problème de l'environnement, c'est que cette eau qui vient du cœur du réacteur est déjà irradiée. Et si cette eau se retrouve par hasard dans l'environnement, ça veut dire tout ce que nous avons dans l'environnement, les plantes, même les autres animaux, pour devoir consommer cette eau irradiée. Alors, une fois consommé cette eau irradiée, ça fait une façon de s'irradier de l'intérieur, avec comme conséquence cette propagation. Prenez un petit exemple. Une eau irradiée qui sert par exemple à arroser les ndunda. Ces ndunda seront consommés par des milliers de personnes. Eh bien, ces personnes consomment des ndunda irradiés et ils sont par le fait même irradiés, avec les conséquences dont le médecin a parlé, qui peuvent subvenir dans la suite.
Quelle sorte de collaboration il y a entre le CNPRI et le Centre de recherche atomique?
En fait, jusqu'à l'instauration du CNPRI, c'est le commissariat général qui faisait office d'organe de réglementation. Donc c'est eux qui jouaient le rôle du CNPRI. Pour ça, ils ont le matériel qu'il faut, ils ont l'expertise qu'il faut. Mais il se pose un problème. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, ne veut pas qu'un organe utilisateur soit en même temps réglementaire. Ce qui fait que le crème qu'avec ces deux réacteurs, parce qu'il y a un réacteur qui est encore en état de fonctionnement pratiquement, même s'il est à l'arrêt maintenant, et un autre qui a été démantelé en 1972. Et ce laboratoire, le crème a été un utilisateur de rayonnement ionisant. Et de ce fait, il ne pouvait pas être juge et parti. C'est ainsi que l'agence a fait pression pour que chaque État puisse avoir un organe réglementaire, indépendant des utilisateurs. C'est ce qui fait que le CNPRI a été créé, et le CNPRI, dès qu'il aura son budget, dès qu'il aura ses installations, devra gérer non seulement le CRENK, mais tout ce que je vous ai dit comme utilisateur de rayonnement ionisant, notamment les hôpitaux, avec leurs machines de rayon X, leurs machines de radiothérapie, et les industries qui utilisent les rayonnements pour l'extraction des minéraux, jauger et déterminer les doses des minéraux. Donc, le CNPRI ne peut pas se limiter seulement au seul commissariat général à l'énergie atomique. Son champ d'action, c'est tout le pays. Parce que, vous conviendrez avec moi, avec tout ce que nous avons comme minéraux dans ce pays, la plupart sont associés à des minéraux radioactifs. Et les géologues et les autres vous diront qu'il est très difficile de trouver un minéraux pur à l'état naturel. C'est si que vous trouvez du cuivre associé par exemple à un autre minéraux, vous trouvez du cobalt, tout ceci, c'est tout un amalgame. Et là-dedans, il y a toujours une portion
de radioactivité,
de matière radioactive.
Vous avez aussi plusieurs publications à votre actif, mais qui sont en chinois et en anglais. Oui. Citons à titre illustratif Optical Heterodyne Magnetic Rotation Concentration Modulation Technique in Chinese. C'est une publication collective avec Wu Ling, Yang Ming, Zheng Li Yuan, Yang Xua, Chen Yangqin. Qu'est-ce que vous faites pour rendre ces recherches accessibles aux autres chercheurs congolais?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'en profite justement pour présenter mes civilités à mon directeur de thèse, le professeur Chen Yangqin, qui a su m'encadrer et souffler à moi ce domaine de recherche qui est l'optique. Et en fait, mon domaine dans lequel j'ai travaillé, parce que la publication est dans ce domaine, c'est de la spectroscopie moléculaire. Nous déterminons la structure des molécules, essayons de comprendre ce qui se passe au fin fond des molécules. Et pour cela, nous avons dû utiliser des lasers et on envoyait le laser dans l'échantillon et on a enregistré le signal à la sortie. Bien sûr, je vous dispense de tous les détails du système.
Heureusement.
Ouais. Mais sinon, dès qu'on envoie le faisceau laser dans l'échantillon et on récolte le signal à la sortie, ça nous renseigne sur la structure interne de la molécule. Et la spectroscopie, comme vous le savez, ça nous donne l'empreinte digitale du corps que nous analysons. Donc avec cette méthode dont je parle, dont vous avez parlé, Optical Heterodyne Concentration Modulation Technique, c'est une méthode très sensible qui a l'avantage de ne pas avoir trop de bruit de fond et qui nous donne le signal clair de la structure de la molécule.
Mais comment vulgariser tout ça au niveau des chercheurs congolais? Parce que c'est en anglais et en chinois que vous l'avez fait.
En fait, pour vulgariser ça, moi je pense qu'il faut qu'on puisse relancer les recherches spectroscopiques. Quand j'étais jeune étudiant, nous avions de très beaux laboratoires de spectroscopie dans ce pays. J'ai évolué au département de physique de l'université de Kinshasa et j'ai eu la chance de voir de très beaux laboratoires de spectroscopie. Il y avait notamment le labo de spectroscopie Mosboer, qui malheureusement ne travaille plus. Il y avait le laboratoire de positronium, qui était un très beau laboratoire, qui ne travaille plus aussi. Et l'objectif serait de relancer ces laboratoires et bien d'autres pour pouvoir initier les jeunes chercheurs congolais à des techniques aussi avancées que la spectroscopie. Mais pour cela, il faut bien sûr une volonté politique et des gestionnaires de ce pays pour nous fournir le minimum d'équipement. Là où j'étais, j'avais l'habitude de dire aux collègues chinois que nous avons de très beaux laboratoires et que nous avons fait des techniques de spectroscopie assez avancées. Malheureusement, à mon retour, j'ai trouvé tout à mourir, bien à l'arrêt, et ça m'a fait très mal au cœur.
Alors, un dernier mot pour clôturer cet entretien, professeur Kakoulé.
Ce que je voudrais encore revenir sur le Saint-Péri.
Allez-y.
En fait, cette institution est d'une très très grande importance. À mon niveau, j'estime que si l'institution était dotée des moyens nécessaires de sa politique, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter, comme ce qui s'est passé dans la rivière Moura dernièrement.
À Likasi-Okatanga.
Bon, il suffit d'une volonté politique pour nous installer. Parce que l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui nous soutient, est prête à nous fournir un bon nombre d'équipements et à former le personnel du Saint-Péri. Mais pour ça, il faut que du côté gouvernement, il puisse faire sa part des choses, qui consiste à nous doter de budgets et de bâtiments. Et peut-être nous permettre maintenant d'avoir des extensions dans des lieux sensibles comme le Katanga ou bien le Kivu.
Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est dans toute la RDC parce qu'il y a des matières radioactives partout.
Un peu partout, oui. J'en profite aussi pour dire que la chose la plus importante qui doit suivre, c'est la sensibilisation, qui relève aussi du Saint-Péri. Nous devons informer notre population sur les dangers des rayonnements ionisants. Et je pense qu'avec ça, ça serait déjà un beau pas. Mais sinon, si les choses doivent continuer comme ça, nous ne sommes pas loin d'une catastrophe radiologique. Et faut-il encore attendre de compter nos morts pour maintenant prendre les dispositions ou bien prévenir les événements? Moi, je pense qu'il est utile de prévenir les événements en installant l'autorité réglementaire qui va... Je ne dis pas que nous allons arrêter totalement, mais au moins nous pouvons prévenir et prendre les devants des événements. Il ne faut pas attendre que la catastrophe arrive et puis nous commençons à pleurer.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, professeur Marc Kakoulé-Kaniki. Je rappelle que vous êtes président du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants CNPRI. Merci à Kevin Couté qui a réalisé cette émission et à Paulin Mouinkiew qui l'a mise en onde. Cette émission est disponible sur le site Radio Okapi, www.radiookapi.net. où vous pouvez aussi voir les photos de nos invités. Bonne suite au programme sur Radio Okapi.